Winnet en direct
avec JC,
Mono et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur et c'est tout.
Radio X.
Fin de la session parlementaire à Québec. Donc techniquement, on se reprend en automne aux élections, campagne électorale. Au mois d'octobre, en fait au mois de septembre, mais élection au mois d'octobre pour la suite. Donc, un petit bilan. Puis là, on se demandait avec qui on pourrait bien faire un bilan. Puis d'entrée de jeu, on dirait que d'avoir quelqu'un qui représente un parti, je sais pas pourquoi, j'aurais l'impression que ça va être moins impartial. Fait qu'on s'est tourné vers des indépendants, puis on en a trouvé un, puis je suis bien content qu'il ait accepté de jaser un peu avec nous autres. Député indépendant de Saint-Jérôme, d'ailleurs, qui ne se représente pas aux dernières nouvelles, peut-être qu'il a changé d'idée, on ne le sait pas. Youri Chassin, au bout de la ligne. Monsieur Chassin, bonjour.
Bonjour, monsieur Ouellet.
Puis je vais commencer avec cette question-là. On n'a pas changé d'idée, on se représente.
On n'a pas changé d'idée.
Non, pourtant, j'ai lu quelque part que vous vous étiez réconcilié avec la politique en étant indépendant.
Ouais. Ben, en fait, avec le dernier combat mené, là, la croisade d'un seul homme, semble-t-il, mais ça m'a fait du bien de voir que jusqu'à la fin, j'avais cette espèce de d'indignation, on va dire, là,
ouais.
Cette combativité. Puis ça, ben quelque part, c'est comme nécessaire aussi pour faire la politique. Mais c'est pas ça qui va m'amener à changer d'idée sur me présenter ou pas. Parce que vraiment, après 8 ans, c'est tellement stimulant. J'encourage tout le monde qui souhaite faire le saut. Mais c'est épuisant aussi.
Qu'est-ce qui était stimulant? Parce que vous avez dit que c'était d'être indépendant qui vous avait réconcilié avec la politique. Mmh. Donc, vous étiez un peu fâché avec la politique. C'est quoi? C'est la ligne de parti? C'est l'espèce de carcan imposé? Qu'est-ce qui est frustrant là-dedans?
Oui, il y a plusieurs choses. C'est sûr que la ligne de parti, c'en est une. Mais c'est aussi une ligne de parti qui est imposée souvent sans qu'on ait vraiment la possibilité d'en débattre tant que ça. Parce que le temps est très, très court. Puis ça va très vite, puis il y a beaucoup de dossiers, et donc on finit souvent par devoir se rallier sans vraiment comprendre exactement la position de notre parti, sans nécessairement avoir le temps d'en débattre. Et parfois, j'avoue que pour moi c'est un peu ça aussi, tu sais, d'être tout le temps dans l'ombre quand on est avec l'aide gouvernementale, on n'existe comme plus publiquement. Alors que j'avais une certaine notoriété avant de faire le saut en politique, pas énorme, mais un peu. Là, je me suis dit, ben là, je disparais complètement de l'univers public, alors que j'ai été quand même en politique parce que le débat public m'intéresse.
Ben oui. Puis pour être honnête, moi, je voyais quelque chose de très prometteur avec votre arrivée au sein de la CAQ, vous et d'autres qui ont été tassés pas mal. Y a-tu des regrets? Est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir eu davantage de responsabilités de la part de la CAQ?
Ben, en fait, des regrets. Disons que ça a été peut-être plus un révélateur. Parce que s'ils m'avaient donné des responsabilités à moi et à d'autres, ça aurait été un signal de rupture, là, de changement des façons de faire. On n'est pas juste en train d'avoir des bons porte-parole pour nos ministères. On veut des gens qui vont changer des choses.
Oui, mais c'est ce qu'on nous disait au début à la CAQ.
Ah oui. Et donc, quand ils ne m'ont pas choisi, moi, je me suis dit, OK, mais ça m'indique qu'on essaie. Puis au début, je me suis dit, ben, c'est correct, qu'on essaie peut-être de rassurer tout le monde parce que c'est un nouveau parti qui occupe le pouvoir, qui n'a jamais occupé le pouvoir. Regardez, ça va bien, on a un bon ministre des Finances, on a une bonne ministre de la Santé. C'est de rassurer tout le monde, puis qu'à un moment donné, on va dire, mais là, c'est le temps de changer.
Il faut brasser.
Mais finalement, ça n'a jamais été le temps de changer.
Ça n'a jamais été, puis j'ai l'impression que cette dernière session-là s'est terminée un peu comme a été mené le reste, c'est-à-dire essayer de passer le plus de projets de loi possible, quitte à aller sous baillon, quitte à précipiter les choses. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas passés, mais ils ont quand même réussi à passer une série de projets de loi vitesse, en mettant beaucoup de pression sur tout le monde. Regardez, vous êtes en train de ralentir le groupe, puis on fait ça pour les Québécois, puis etc. Et vous avez tenu bon sur un projet de loi spécifique qui, moi aussi, m'a un peu dépassé. J'ai pas compris exactement quel était l'objectif d'ajouter 2 députés alors que le DGEQ n'avait pas cette lecture-là. Moi, je pensais qu'on faisait confiance aux institutions indépendantes quand on avait des organismes qui sont faits justement pour réfléchir en marge du gouvernement. Je pensais qu'on les écoutait. Ouais. Mais pourquoi tout le monde a embarqué là-dedans? Est-ce que c'est la machine qui protège la machine? Parce que là, on ajoute deux députés quand même.
Oui. Puis, c'est comme l'espèce de solution de compromis pour dire, ben on va quand même permettre que les circonscriptions, que le directeur général de direction, puis la commission là, qui est chargée de faire la carte électorale, on va quand même permettre que ces deux comtés qui étaient nouveaux et qui devaient apparaître soient là. Mais on va quand même préserver ceux qui devaient disparaître. Et donc, la carte, elle avait 125 comtés, mais là, parce qu'il y en a un dans l'est de l'île de Montréal puis en Gaspésie qui disparaissent. Oups, c'est vrai que ça devient difficile puis qu'il y a des gens qui vont faire des grosses campagnes pour dire ça nous prend notre comté de plus, ça nous prend notre député de plus.
Mais qui ça? J'entends pas de gens là, défendre leur circonscription tant que ça. Là.
Ben, alors évidemment, dans la population générale, c'est une chose, mais il y a eu par exemple la Chambre de commerce, je pense, de Carleton-sur-Mer qui s'est alliée avec la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal pour dire, nous, là, on a besoin d'avoir un député de plus parce que ça aide au développement économique. Je ne sais pas exactement comment, mais ouais. Ça a l'air que ça aide pour eux. Fait que là, évidemment, on se trouve à avoir des gens qui se prononcent, puis plein d'élus locaux, etc., qui ont des habitudes déjà de travail avec des députés. Puis là, oups, tout à coup, là, les limites changent. En plus, ils en comptaient de moins. Fait qu'ils sont battus. Puis c'est sûr que pour les autres, mettons, moi, mon monde dans les Laurentides, bien, on a un vote un petit peu dilué. On est un petit peu moins important. Fait qu'on y perd, mais on n'y perd pas tant que ça, alors qu'eux autres, ils gagnent un comté de plus. C'est très, très, très important. Fait qu'évidemment, ils ont été très vocaux. On n'a peut-être pas entendu ceux qui perdaient là-dedans.
Oui, mais tu sais, je comprends, là, mais est-ce que le travail du DGE, le directeur général des élections qui a fait une job non partisane pour dire que, logiquement, selon les stats, les chiffres, on devrait réorganiser la carte comme ça. Ça pas d'un... Là, on y va avec les émotions, là, parce qu'on a l'impression que ça va être mieux pour la région, puis on veut pas perdre quelque chose. Donc, quelque chose de très... c'est un peu astral, là, c'est dans le ciel un peu. Tandis que le rapport du DGEQ était assez étoffé. Là. Ça me semble que ça...
Oui. Il n'y a pas eu la même quantité d'analyse. En fait, j'imagine qu'au gouvernement, ils ont peut-être plus de documentation, notamment probablement un avis juridique, parce que, mine de rien, ils ont présenté et adopté un projet de loi après qu'un jugement de la Cour suprême leur ait dit la loi précédente là, que vous avez essayé de passer pour modifier la carte électorale, ben ça marche pas, c'est inconstitutionnel. Fait qu'ils sont revenus à 11e heure pour changer quelque chose à 3 mois des élections, ça n'a pas de sens, mais c'est ça.
Donc, à la prochaine campagne, on aura 2 députés de plus, puis ça, les gens réalisent peut-être pas, mais ça, c'est 2 salaires de députés, 2 salaires de staff, des salaires de locaux, des transports, des nuitées à l'hôtel pour quand ils doivent se déplacer parce que c'est des régions éloignées. On vient encore de faire gonfler la facture des dépenses de l'Assemblée nationale.
Puis on se comprend, pour moi, puis c'est une différence peut-être là, avec d'autres ennemis à moi, mais pour moi, ce coup-là qui est important parce que c'est symbolique. Là, quand on est en déficit, d'habitude, on n'essaie pas de rajouter des dépenses. Ben, c'est quand même le coût de la démocratie. Puis, vaut mieux avoir la démocratie que l'alternative. Donc, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais effectivement, ça devient la solution facile. Puis, d'après moi, ça devient un précédent dangereux. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des comtés qui vont venir à disparaître, on va les sauver, on va rajouter des places. Ça, c'est problématique parce qu'à la fin, on ne peut pas être 300 dans le salon bleu.
Y a-tu trop d'émotions? Parce que, tu sais, moi, je regarde ça, puis vous étiez le seul. À la fin, là, au début, il y en a 2-3 qui ont levé la main. À la fin, vous étiez seul contre 124 personnes qui unanimement pensaient la même chose. Puis il me semble que c'est arrivé souvent, ça, la semaine passée, dans la loi sur le Red Bull. Soudainement, là, tout le monde est d'accord. Moi, je ne peux pas croire que ces gens-là représentent une population homogène à 100% que tout le monde pense pareil. Moi, ça m'a toujours un peu troublé. Je comprends qu'il y a des votes à aller chercher, puis il y a quelque chose là-dedans de racoleur, de dire on va y aller. Y a-tu trop d'émotions à l'Assemblée nationale?
Ben, y a une ligne de parti aussi, hein?
Oui, mais là, tous les partis sont tous pareils.
Ben oui, puis c'est ça, puis c'est que dans chaque caucus, il y a sans doute des gens, en fait, moi je vous le confirme, il y a des gens qui sont venus me voir, puis ils étaient contre certaines affaires, puis en même temps, ils n'ont pas le choix. Ils font partie d'un véhicule politique, fait qu'ils se ralliaient. Mais dans la vraie vie, je suis pas mal sûr qu'il y en a d'autres qui auraient voté contre, par exemple, la réforme de la carte électorale, s'ils avaient eu le choix. Puis s'ils avaient eu le choix, peut-être que les boissons énergisantes et les Red Bull, ça aurait été différent que juste une abstention, mais a été Blanchette Vézina, puis un contre, moi. Fait que c'est sûr que ça, ça fait partie un petit peu du... Comment je dirais, tu sais, la ligne de parti, c'est aussi qu'il y a eu, en 8 ans, aucun vote libre. Puis c'est particulier.
Hein, aucun. Il n'y a eu aucun vote libre en deux mandats complets.
Non, mais il s'abstient.
Quand on est sur le budget, on comprend, ça peut faire tomber le gouvernement, mais l'émotion, là, à chaque jour, là, sur plein d'affaires symboliques, peux-tu voter librement?
Je disais qu'il votait quand il était contre, il s'abstentait. Fait qu'on s'abstient de voter contre.
On va aux toilettes.
Ouais,
ou on vote pour.
Exact.
Ouais, mais ça, personne ne sait.
Mais ça, là, éventuelement, dans notre démocratie, puis là, on jase, on va pelleter des nuages un peu. Là. Est-ce qu'il va falloir un jour peut-être ramener le vote libre des députés, la libre pensée, ramener un peu ça au cœur de notre démocratie? Parce que pour moi, ce que j'entends là, C'est pas une démocratie libre où les gens appuient des décisions en fonction de leur électorat, en fonction des intérêts de leur comté. C'est des lignes centralisées qui partent d'en haut, puis tout le monde suit comme des moutons. Tu sais, je sais pas, moi, je me sens mal à l'aise là-dedans. Visiblement, vous aussi, vous êtes indépendant aujourd'hui, puis vous quittez. Mais ça, un jour, notre système démocratique qui date du 18e siècle, va peut-être falloir le repenser, là.
Puis, honnêtement, ça a été un peu notre message. On était 3 indépendants là, qui avons fait un petit point de presse vendredi pour lancer ce message-là à la prochaine législature. Il faut repenser au travail du député, à son indépendance. Évidemment, il y a une clé de voûte, je dirais, c'est qu'à la fin, pour être député d'un parti, il faut être candidat de ce parti-là aux élections.
Mais oui.
C'est le chef qui signe le bulletin de mise en candidature. Fait que si Donald Trump choisissait tous les candidats républicains, ben il en aurait du pouvoir encore plus. Ouais. Alors que là, c'est le parti qui est indépendant du candidat du parti à la présidence.
Et ça explique que des fois, il y a de la réticence, puis il y a des gens qui bougonnent. Ben oui.
Puis ça arrive, c'est ça, de la dissension. Ouais. Mais ici, au Québec, ça n'arrive jamais. Alors que même au fédéral, là, au Parlement fédéral, il y a des libéraux qui ont voté contre des projets de loi libéraux. C'est, ça arrive. Puis en même temps, ben est-ce que Pierre Dufour, le député de la BTBF, il disait... Si on s'est présenté avec un parti puis que c'est ça sa plateforme électorale, on serait malvenu de voter contre. Mais si c'est pas dans un engagement électoral, ben c'est nouveau ça comme réflexion. Il faudrait pouvoir voter librement.
Monsieur Chassant, est-ce qu'on a plus de pouvoir en dehors de la politique? Parce que, tu sais, dans le fond, quand on devient politicien, on dirait que pour laisser sa marque, là, surtout quand on vire, on devient ministre, c'est de créer des lois. Tu sais, le document de réglementation au Québec s'en vient épais. Puis des fois, c'est drôle parce qu'en tant que Québécois aussi, on demande toujours aussi plus de mesures.
14 nouvelles lois la semaine passée, là, des nouvelles lois qui n'existaient pas. Là.
Donc, je me dis, dans le fond, là, quand on devient... Ça se peut-tu que ça soit comme un peu un piège, des fois? Puis, tu sais, c'est le bon vouloir. Vous avez 2 pieds dedans, là, tu sais. Quoique là, vous êtes devenu indépendant, mais tu sais, vous êtes quand même passé pendant de nombreuses années à la CAQ. Vous avez vu des gens devenir ministres. C'est-tu un piège, ça, quand on fait partie de la politique, qu'on ne voit pas venir nécessairement, puis qu'on se dit, on est premier à dire qu'au départ, on voulait moins de paperasse, puis rendu 2 pieds dedans, on rajoute des mesures à l'infini?
Oui. Bien, alors, peut-être que ça vous pose une excellente question. Dans le discours que Simon-Jolin Barrette a fait pour saluer le départ de M. Legault, il a dit quelque chose, puis moi, ça m'a frappé, parce que je pense qu'il représente, en fait, là, ce que bien des gens pensent. Il disait à M. Legault, « Ma définition d'un politicien qui a laissé un legs, c'est qu'il a laissé des choses qui ne seront pas changées par la suite. » Et donc... Selon cette aune-là, M. Legault a été un grand premier ministre. Mais là, je vois maintenant pourquoi, par exemple, Simon-Jean Barrette a travaillé sur la Constitution. Parce qu'il disait, une fois que ça va être adopté, il n'y a plus personne qui va le remettre en question. Ben, savez-vous, moi, j'ai fait un projet de loi en santé. Puis ce que je proposais, là, c'est qu'il y avait 5 mécanismes qu'on voulait enlever. Parce que ça s'accumule tout le temps.
Oui.
Puis enlever quelque chose, là... Ben c'est sûr que quelqu'un peut leur mettre facilement après. Fait que ça restera peut-être pas de même. c'est ça le problème. C'est que c'est plus difficile d'enlever quelque chose que d'en rajouter, en rajouter, d'en rajouter à l'infini. Puis c'est un problème, je pense, très économique à la fin.
Ouais, c'est, ça devient lourd. Ça devient toujours économique à la fin. Peu importe les décisions prises, ça va toujours finir dans le portefeuille. Une loi, ça se gère. Une loi, ça se paye. T'sais, faut...
Il y a des fonctionnaires.
Ben, c'est ça. Puis là, il y aura des... Tu sais, l'affaire du Red Bull, là, je veux bien là, la bien-pensance, puis l'espèce de protection de la jeunesse, puis tout ça, je comprends. Là, c'est... Sauf que là, il faut engager des inspecteurs, il faut engager des fonctionnaires pour faire appliquer les lois. Il y a des cas qui vont se ramasser en cours, on va faire travailler des avocats. On va...
C'est du monde mineur qui travaille dans des dépanneurs.
Exactement. Ça va être ça.
Tu mets la pression d'un jeune qui a 16 ans de carter un autre jeune qui se prend une boisson.
Qui a 15 ans.
T'sais, ben oui. C'est quoi la définition entre une boisson énergisante et une boisson trop sucrée? Parce que le sucre est aussi rentré dans l'équation. Là. Ça commence à être compliqué, vos affaires. Là.
Puis en plus, ben c'est ça, parce qu'en consultation, il y a eu vraiment, je pense, beaucoup de candeur de la part de la santé publique de dire, mais dans le fond, la caféine, c'est pas ça qui est problématique. T'sais. C'est beaucoup plus le sucre qui est problématique. Puis il y a différentes avenues, on pourrait taxer ça. On les voit venir. Là, ils ont fait un peu le parallèle avec le tabac. Puis là, ils se disent, OK, on va interdire aux mineurs, mais bientôt, on va interdire la publicité. Fait qu'ils ne vont plus subventionner les événements. Bientôt, on va faire autre chose. Fait que c'est tout le temps un peu la même dynamique. Puis moi, c'est ça mon problème, c'est qu'à la fin, même si on trouve qu'il n'y a pas d'avantage pour la santé des jeunes qui consomment un Red Bull, est-ce qu'on peut faire de la sensibilisation, de l'éducation. Est-ce qu'on peut aussi dire, ben, s'ils en achètent, il y a bien une raison, il y a bien un avantage pour eux qui est perçu. Puis ça, ben, on est censé, je pense, le respecter parce qu'on n'est pas là pour faire des décisions à la place du monde.
Puis dans beaucoup de cas, je trouve que c'est des décisions de parents. T'sais, c'est à un moment donné, il va falloir laisser un peu de jeu aussi aux parents dans toute l'histoire.
Comme la décision de à quel âge peut-on commencer à travailler?
Puis si on veut pousser, pourquoi est-ce que le gouvernement gère le nombre d'employés à fin de semaine d'un commerce? Pourquoi est-ce qu'on empêche quelqu'un d'être 24 heures si ça l'est? Tu sais, je veux dire, on peut faire beaucoup de temps à jaser de tous les règlements qu'on a ajoutés au fil du temps. Mais là, on n'a plus le temps. En terminant, je veux savoir, le Youri Chassin d'automne, il fait quoi, lui?
C'est une très bonne question. J'ai décidé de ne pas me pencher là-dessus avant la fin. Quand je serai dans la pré-politique, je penserai à la pré-politique parce que je ne veux pas que ça conditionne mes décisions en tant que représentant de Saint-Jérôme. Fait que je ne fais que ma job jusqu'à la fin, après ça, je penserai à la suite.
Bien, bonne fin de carrière politique, M. Chassin. Ça aurait été au moins une expérience personnelle pour vous enrichissante.
Puis j'espère avoir enrichi un peu la réflexion collective, ne serait-ce que parce que je les ai empêchés de temps en temps d'aller trop vite. Ce serait ça déjà ça.
C'est une bonne affaire. Christine Frégeant aurait pu être votre chef.
Ben oui. Merci beaucoup.
Ben, c'est un plaisir.
Merci de nous avoir parlé, by the way, tout au long de ces années, surtout depuis que vous êtes indépendant, on va se le dire. Merci beaucoup.
Ah oui. Puis, il y a une campagne électorale, vous me réinviterez.
Ben oui, on pourra jaser de ça. Merci.
Merci, au revoir.
Salut, au plaisir. Youri Chassin qui, jusqu'à l'automne, est député indépendant de Saint-Jérôme. Après, il sait pas. Puis moi non plus. On vit.
Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.